بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 87 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahidin du Cheikh, le Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les explications du petit-fils du Cheikh, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc, on est toujours dans le chapitre Babun Maja Afir Ruqa wa Tamaim. Et on est à la fin donc du chapitre. Il nous reste une page et demie environ à terminer. À peine. Donc, Barakallahu Fik Yassine. Donc, il nous reste une page à peu près à terminer. Donc, on va finir ça, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. Donc il dit le cheikh que ceux qui ont commencé à condamner le shirk, à mettre en garde contre le shirk, à mettre en garde contre les amulettes et les pots de bonheur, à mettre en garde contre l'adoration des tombes, et ainsi de suite, eh bien, ils ont été considérés par les gens de Bid'a, les Soufiyas, les gens des Khurafat, comme étant des gens qui font quelque chose de pas correct. Comme si d'interdire le shirk, c'était quelque chose de haram. Même que, pour certains, ils en ont fait, même si tu condamnes, par exemple, l'adoration des tombes et l'adoration des morts et des saints, eux, ils ont pris ça comme si c'était du kufr. Comme si, comment tu manques de respect envers les hommes pieux et tu veux pas qu'on respecte les hommes pieux. Ils ont donc déformé la réalité et ils ont fait paraître le tawhid comme si c'était mauvais et ils ont glorifié le shirk pour en faire quelque chose de bon. Donc ça c'est malheureux, mais c'est ce qui est arrivé dans beaucoup d'endroits dans le monde lorsque l'islam est devenu étrange. Lorsque l'islam, dans les derniers temps de cette umma, est devenu étrange au point que les gens commencent à condamner qu'est-ce qui est ordonné par l'islam et qu'est-ce qui fait partie des fondements de l'islam. Eux, ils le condamnent. Et ils condamnent même des choses qui sont... ceux qui interdisent des choses plus graves que ça, c'est-à-dire ceux qui interdisent le shirk et le kufr majeur, eux ils considèrent comme si c'était pas correct de faire ça et ils te traitent de wahhabi, ou bien même ils te traitent de khariji si tu interdis le shirk et si tu condamnes le shirk et si tu réfutes l'adoration des tombes. Ils disent ça c'est les khawarij, alors que ça n'a rien à voir avec les khawarij. Les khawarij, ils font le takfir des gens qui font des péchés, des kaba'ir. Ils déclarent kuffar. Mais si tu fais le kufr et le shirk majeur, adorer les tombes, des choses comme ça, ça c'est pas la bid'a des khawarij. Allah musta'an. Donc ça, c'est la confusion dans la religion. Et il dit même parmi les gens qui sont prétendus faire partie des gens de la science, ou des gens qui prétendent appartenir à la science. Donc on a beaucoup parmi les gens de bid'a. OK, des gens qui par exemple, vous allez voir des chouyoukh dans certaines universités, dans certains pays qui défendent la bid'a, qui défendent le shirk. Ils sont considérés par la population dans ces pays-là comme étant des gens de science. Pourtant, ce sont des gens qui défendent le kufr et le shirk et les bid'a et tout ce qui contredit la sunna. Allah al-musta'an. Et donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus, il dit wa fihim ulama wa fuqaha lakin laysa 'indahum 'ilm bit-tawhid. 'Indahum 'ilm bil-fiqh, wa qad yakun 'indahum 'ilm bil-hadith wa qad yakun وقد يكونوا محدثين ولكن ليس لهم عناية بالتوحيد وأمور التوحيد، وإنما يسيرون في العقيدة على ما يسير عليه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit, il y en a parmi eux, par exemple, ces gens-là, ils sont des ulama, des fuqaha, des savants de fiqh. Des savants de fiqh, ils connaissent beaucoup de choses sur l'islam. Peut-être qu'ils sont des gens, par exemple, dans la langue arabe, ils sont des professeurs. Dans la, par exemple, le fiqh, ils sont des professeurs, ils sont des savants. Ils connaissent beaucoup de choses dans le fiqh. Ils connaissent beaucoup de choses, par exemple, dans yani, usul al-fiqh, ou bien même dans le hadith. Peut-être qu'ils connaissent des choses sur le hadith et la science du hadith. Peut-être qu'ils font partie des muhaddithin, mais ils ne connaissent pas le tawhid, n'ont pas étudié le tawhid. Alors que le tawhid, c'est la base de cette religion-là. Hein? Beaucoup d'entre eux, par exemple, si tu regardes dans certaines universités dans les pays musulmans, eh bien, ils apprennent ce qu'ils appellent usul al-din, ou bien ils appellent ilm al-kalam, par exemple. Ils vont dire ilm al-kalam. Et pour eux, c'est ça la aqidah. Alors qu'en réalité, ça c'est pas la aqidah de Ahlus Sunnah. C'est la aqidah des gens de bid'ah. C'est la philosophie, en fait. Hein? C'est ça qu'ils apprennent, eux. Et l'objectif de ilm al-kalam, pour ces gens-là, l'objectif dans la foi, c'est d'établir et d'affirmer avec des preuves rationnelles l'existence de Dieu. C'est ça le but et l'objectif le plus important pour les gens de Kalam, la plupart d'entre eux. Si tu regardes, par exemple, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, c'est ça le Tawhid pour eux, c'est Tawhid al-Rububiyya. Hein? Tawhid al-Rububiyya seulement. Tandis que Tawhid al-Ibadah, le Tawhid dans l'adoration, celui avec lequel les messagers sont venus, le tawhid de l'adoration, ils ne connaissent rien là-dedans. Hein? Même que parmi eux, peut-être qu'ils ne considèrent même pas ça comme faisant partie du tawhid. Allah al-musta'an. Et donc, c'est ça le malheur. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, quand c'est des questions qui ont rapport avec d'autres domaines de la science, hein, ils savent beaucoup de choses, ils connaissent beaucoup de choses, hein? Mais quand c'est des questions de tawhid et d'aqidah, ils suivent ce que les gens suivent. Ils font un taqlid aveugle. Hein? Allah al-musta'an. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' wa huwa ibn al-Jarrah, ibn Waqi' al-Kufi. Ibn Waqi' al-Kufi. Donc ça, c'est un des shuyukh parmi les salafs. Waqi' il est connu. Et c'est un des shuyukh de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et d'autres parmi les ulama, les salaf aussi. Et il a cette narration que le cheikh il a cité ici. Et donc il dit thiqatun imamun sahibu tasanif wa minha al-jami' wa ghayruh rawa anhu al-imam Ahmad wa tabaqatuh wa mata sanata 97 wa 100. Donc Waqi', c'est un parmi les grands imams. Son nom c'est Ibn al-Jarrah Ibn Waqi' al-Kufi. Et c'est un thiqa, il est thiqa dans le hadith, il est fiable, c'est quelqu'un de qui on prend le hadith, c'est un imam dans la science même. Et il a des ouvrages qu'il a écrits également, et parmi ses ouvrages, Al-Jami'. Et l'imam Ahmed fait partie des ulama qui ont rapporté de lui, ainsi que les gens de sa génération. Hein? Et comme on a dit tout à l'heure, l'imam Shafi'i aussi fait partie de ses élèves. Wa huwa min mashayikh al-imam Ahmad. Wa min mashayikh al-imam Shafi'i. Il y a un poème qui est connu justement à propos de Waqi' que l'imam Shafi'i a mentionné. Il dit shakawtu ila Waqi' su'u hifzi. Shakawtu ila Waqi' su' hifzi. Fa arshadani ila tark al ma'asi. Qala fa inna al 'ilma nurun wa nuru Allah la yu'ta li 'asi. Donc il dit je me suis plaint à l'imam Waqi' de ma mauvaise mémoire, ma mauvaise mémorisation. Et il m'a dit il m'a orienté vers l'abandon des péchés. Il a dit, la science c'est une lumière. Hein? Et Allah, il ne donne pas sa lumière à un pécheur. Donc l'imam Waqi'a, il est décédé en quelle année? En l'an 197. Donc 197 Hijri. Naam, rahimahullah. Il dit, donc là on avait lu la parole de Saïd ibn Jubayr, et c'est rapporté par Waqi'a. C'est pour ça qu'il a parlé de l'imam ici, Waqi'a. Ensuite il dit, et la dernière narration dans ce chapitre que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité, c'est, il dit, Walahu an Ibrahim. Et ici c'est Ibrahim al-Nakha'i, je crois. Et il dit, قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. C'est-à-dire, ils détestaient les amulettes, toutes les amulettes, peu importe la sorte, hein, que ce soit du Coran dedans ou autre que le Coran. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique ce passage-là. Il dit, Ibrahim, wa huwa al-imam Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i al-Kufi, wa yukna Aba Imran, thiqatun min kibar al-fuqaha, mata sanata 96, wa lahu 50 sana, aw nahwaha, qawluhu kanu yakrahuna at-tamaim, arada ashab Abdullah ibn Mas'ud ka'alqamah wal-aswad, وأبي وائل والحارث ابن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع ابن خيثم وسويد ابن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم وهذا القول هو الصحيح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة منها دخوله في عموم المنهي عنه ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها والثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه فإنه من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. Hein? Donc on va traduire jusqu'ici. Après il nous reste un petit point, quelques points, puis après c'est terminé, on a presque fini ce chapitre. Donc ici l'imam Abdurrahman ibn Hassan Rahimahullah, il explique que Ibrahim, c'est l'imam Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i al-Kufi, un des grands parmi les tabi'in. Et il dit que sa kunya c'est Abu Imran. Il fait partie des grands savants parmi les fuqaha. Et il est mort en l'an 96. Il est mort en l'an 96 de la Hijra et il avait 50 ans. Ou quelque chose autour de 50 ans. Hein? Donc il est mort à cet âge-là, en l'an 96 après la Hijra. Et il dit, l'imam al-Nakha'i, « Kanu yakrahoun at-tama'im ». Et quand il dit « Kanu yakrahoun », il détestait « at-tama'im », les amulettes. De qui il parle en disant « il » Le cheikh, il explique qu'il veut dire par là les compagnons de l'imam ou les compagnons ou les gens qui étaient avec Abdullah ibn Mas'ud parmi ses élèves. C'est-à-dire les élèves de Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux Al-Qama et Al-Aswad et Abu Wa'il et également Al-Harith ibn Suwayd. Et Ubaida al-Salmani et également un autre qui s'appelait Masrouq et de même que Ar-Rabi' ibn Khaytham, et de même que Suwayd ibn Ghafala, et d'autres également. Et donc ça, c'était parmi les têtes, hein, les plus grands parmi les tabi'in, parmi les grands savants, parmi les tabi'in. Donc, à leur époque, quand ils disaient que quelque chose est détesté, ça voulait dire en même temps, ça voulait dire en réalité quelque chose qui est haram. Parce que des fois, pour dire quelque chose haram, ils disaient makruh. C'est-à-dire que les terminologies de fiqh qui sont apparues par la suite, ces terminologies-là n'étaient pas encore fixées, hein, n'étaient pas encore fixées de façon définitive encore. Donc il y avait l'utilisation ou l'emploi des termes qu'on utilise aujourd'hui avec les définitions qu'on connaît, eh bien elles sont apparues plus tard. C'est ça. Aujourd'hui, quand on dit par exemple al-ahkam al-khamsa, les cinq règles, et qu'on dit par exemple ce qui est haram, ce qui est makruh, ce qui est mubah, ce qui est mustahab et ce qui est wajib. Ça, c'est des termes qui existaient ou qui étaient connus, mais qui n'étaient pas nécessairement employés de la même façon ou qui n'étaient pas nécessairement définis de la même façon. Et les termes se sont établis plus tard. Mais les salafs, eux, parfois, ils disaient à propos de quelque chose haram, ils disaient makruh. Et la preuve, même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme le cheikh Al-Fawzan, il va l'expliquer lui-même, il dit kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, c'est-à-dire muharram, hein. Donc el makruh, ça pouvait désigner qu'est-ce qui est haram. Donc c'est ça. Et le cheikh Al-Fawzan, justement, il dit à ce sujet-là, يكرهون يعني أي يحرمون لأن الكراهة عند السلف على التحريم وإنما صارت تطلق على التنزيه عند المتأخرين أما المتقدمين فيطلق الكراهة على التحريم ولقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد ذكر سبحانه الشرك وقتل النفس والزنا والخيلاء وغير ذلك من الكبائر وعقوق الوالدين وقال في ختامها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما. Donc ici le cheikh il explique que donc quand ils disent qu'ils détestaient les amulettes, c'est dans le sens de qu'est-ce qui était considéré par eux comme étant haram. Hein? C'est-à-dire qu'ils considéraient ça comme étant interdit, haram, et non pas seulement détestable tel que on l'utilise aujourd'hui dans le sens de qu'est-ce qui est makruh. La définition qu'on donne aujourd'hui de qu'est-ce qui est makruh, c'est ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ça, c'est la définition de qu'est-ce qui est makruh. C'est-à-dire, Si tu le fais pas, t'es récompensé, et si tu le fais, tu n'es pas puni. Ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ça, c'est la définition de qu'est-ce qui est makruh. Tandis que qu'est-ce qui est muharram, qu'est-ce qui est haram, c'est ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. C'est-à-dire, si tu le fais pas, tu vas être récompensé, et si tu le fais, tu vas être puni. Ça, c'est la définition de ce qui est haram. Mais les ulama, ils ont expliqué que chez les salafs, à l'époque des sahaba et des tabi'in, c'était pas de cette façon-là que ce terme était employé. Qu'est-ce qui est makruh, c'était utilisé pour désigner ce qui est haram. Et les savants qui sont venus plus tard, hein, ceux qui sont apparus après, eux, c'est eux qui ont distingué entre ces différentes appellations-là avec des nouvelles définitions pour structurer, organiser les choses. Mais sinon, quand on regarde dans le langage des salafs, on comprend que qu'est-ce qui est mentionné comme étant makruh, c'était ce qui est haram pour eux. Et l'exemple que les ulama ils citent souvent par rapport à ça, c'est le verset 38 dans Sourate Al-Isra que j'ai mentionné tout à l'heure, dans lequel Allah Azza wa Jal il va énumérer avant ce verset-là plusieurs formes de péchés et des choses qui sont considérées bien entendu comme étant des grands péchés, des choses haram. Hein? Et par exemple, il va mentionner le shirk, il va mentionner, comme le cheikh il le dit, le meurtre, il mentionne le zina, il mentionne l'orgueil, il mentionne le fait de désobéir aux parents, hein? Tout ça il mentionne, et après à la fin il dit « Kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha » c'est-à-dire tout ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Donc ici on comprend que détester, hein, makruha, eh bien ça ne veut pas dire ce qui est yani makruh comme on le connaît aujourd'hui, mais plutôt ce qui est haram, d'accord? Donc il faut comprendre que les terminologies parfois selon l'époque, hein, elles ont changé, mais quand on retourne à l'origine, on comprend que l'utilisation des salafs, quand ils disaient qu'est-ce qui est makro, ça voulait dire ce qui est haram. Ça ne veut pas dire que l'utilisation qu'on a du terme makro aujourd'hui, elle n'est plus correcte. L'utilisation du terme makro, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, elle est bonne, elle est valide. C'est juste que il faut juste ne pas se confondre, ne pas mélanger les choses. Lorsqu'on lit une parole des salafs et qu'on voit que les salafs disent de quelque chose que c'est makro, eh bien, il ne faut pas l'interpréter ou le traduire dans le sens de makro tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque sinon, ça voudrait dire que, yani, on déforme la réalité, puisque pour eux, le makro, c'était ce qui était considéré haram et non pas détestable seulement. D'accord? Donc, et c'est très important de comprendre cette nuance-là pour éviter justement des égarements. Hein? Allah musta'an. Ensuite, le cheikh il dit wa hadha al-qawl huwa as-sahih. Cette position-là, c'est la position qui est exacte, c'est la position qui est correcte, que c'est haram. Hein? Les amulettes, c'est haram. Et il dit لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب. En ce qui concerne les amulettes qui sont faites à partir d'autres choses que le Coran, ça c'est clair déjà à la base, on a compris que c'était haram. Hein? Et la question c'était surtout à propos des amulettes qui étaient faites à partir du Coran. C'était quoi la position par rapport à celles qui étaient faites par rapport à partir du Coran? Et le cheikh dit la position correcte à ce sujet, c'est que c'est haram, même si c'est fait avec le Coran. Et le cheikh il dit pourquoi c'est haram. Il y a trois raisons qui peuvent être mentionnées parmi les plus importantes. Et il explique que premièrement, ça rentre dans l'interdiction générale des amulettes. Deuxièmement, le fait que ça peut être utilisé comme un moyen pour permettre ce qui est composé de d'autres choses que le Coran. Par exemple, si quelqu'un il a une amulette et qu'il l'accroche sur lui, hein, et qu'il dit « Ah, mais non, cette amulette-là, c'est à partir du Coran. » C'est-à-dire qu'il y a du Coran dedans. Ce n'est pas une amulette faite avec autre chose que du Coran. Comment tu vas vérifier pour ça? Comment on peut vérifier pour savoir, hein? Est-ce qu'on va ouvrir à chaque fois chaque amulette pour vérifier ce qu'il y a dedans pour être sûr que c'est le Coran ou non? Donc, pour fermer la porte, hein, ce doute, hein, ou cette ambiguïté, c'est préférable de l'interdire complètement pour éviter justement que des gens profitent de cette exception-là pour essayer de faire rentrer dans les amulettes ce qui n'en fait pas partie ou ce qui est fait à partir d'autre que le Coran. Parce que si on permet les amulettes avec le Coran, eh bien, ça veut dire que par la suite, on ne pourra plus condamner ce qui est composé d'autre chose que le Coran. Donc, ça ouvre la porte à qu'est-ce qui est haram. Et ça, c'est interdit. Ensuite, un autre exemple que le cheikh a mentionné, c'est que le fait de permettre des amulettes avec lequel on écrit à l'intérieur avec le Coran, hein, des amulettes basées sur le Coran, eh bien, si tu les accroches sur toi, ça c'est une cause pour que le Coran ne soit pas honoré ou respecté, et pour qu'on dénigre ou qu'on manque de respect envers le Coran. Pourquoi? Parce que les gens qui portent des amulettes, en général, ils vont rentrer aux toilettes. Quand ils vont rentrer aux toilettes, ils vont avoir les amulettes sur eux. Ça veut dire qu'ils vont manquer de respect envers le Coran. Hein? Et donc, ça, c'est un argument supplémentaire pour interdire les amulettes, même si elles sont faites avec du Coran. D'accord. Donc, on va lire quelques commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ces points-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit « لِأَنَّ مَا كَانَ مِنَ التَّمَائِمِ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ قَدْ تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنْهُ وَلَا أَحَدٌ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي مَا كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضًا » Donc, on a expliqué que le Coran, à la base, si c'était utilisé dans une amulette, la position correcte, c'est que c'est interdit, même si c'est à base du Coran. Il dit parce que si c'était par autre que le Coran, les amulettes étaient écrites avec autre chose que le Coran à l'intérieur, ça, il n'y a pas de divergence sur le fait que c'est haram. Hein? C'est clair qu'il n'y a pas de divergence, ça c'est haram complètement. Et la divergence, on a dit, il y avait seulement la divergence à propos de ce qui était composé à partir du Coran. Et la position correcte ici, on a expliqué que c'est que ce n'est pas permis, même si c'est à partir du Coran. Ensuite, il dit le cheikh بدا الان يفصل القول الاول وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه واصحابه. Donc il explique la position de Abdullah ibn Mas'ud et ses compagnons qui mentionnent que les amulettes à base du Coran sont haram autant que celles qui sont à base d'autres choses que le Coran, et il mentionne les détails à ce sujet-là avec les preuves. Donc il explique, ensuite il dit ولا دليل على التخصيص. Hein? ولا دليل على التخصيص يعني ومنها دخوله في عموم النهي. Donc la première argument qu'on a mentionné pour montrer que les amulettes à base de Coran sont interdites, c'est que la preuve générale, hein, elle montre que ces amulettes là sont interdites, puisque dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les amulettes sans spécifier qu'elles soient à base de Coran ou autre. Donc puisque l'interdiction est générale, eh bien, les amulettes à base du Coran sont elles aussi incluses dans ce qui est interdit, puisque l'interdiction est générale. Et le cheikh, il explique qu'il faudrait qu'il y ait une preuve, hein, pour exclure les amulettes à base du Coran dans cette interdiction-là. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Inna ruqa wa tamaim wa tiwala shirk » Donc il dit que les incantations et les amulettes et les potions, tout ça là, de sorcellerie, tout ça c'est shirk. Donc il dit c'est général, il y a rien pour exclure le Coran, les amulettes à base du Coran, il n'y a rien pour l'exclure de cette interdiction générale. Ensuite il dit « Wa ubiha linnasi ta'liqu shay » إذا أبيح للناس تعليق شيء من القرآن تدرجوا إلى تعليق غيره وربما يقولون هذا يعني أحسن يزينها لهم الشيطان يقولون هذا أحسن يزينها لهم الشيطان ويقولون هذا مجرب فيعلقونه يعني donc ici c'est ça une des portes qu'on ouvre lorsqu'on permet les amulettes avec le Coran. Ça permet d'accrocher petit à petit d'autres choses que le Coran dedans. Et ça, c'est quelque chose que les gens souvent font. Ils pensent que les amulettes qu'ils portent sont à base de Coran, puis finalement, quand on les ouvre, on réalise que finalement, il n'y a pas que. Hein? Il y a peut-être des versets de Coran, mais il y a d'autres choses aussi. Et il y a du sihr mélangé avec ça. Hein? Une fois, il y a une personne qui est venue ici à la mosquée, et elle a ramené des amulettes qu'elle a trouvées. Et quand on les a ouvertes, on a trouvé à l'intérieur du sihr et toutes sortes de formes de shirk et toutes sortes de bid'a. Donc, c'est clair que les gens comme ça, ils portent ça puis ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très grave. Et donc, pour fermer la porte à ça, c'est clair qu'il faut l'interdire complètement. Et ainsi, les gens ne peuvent plus yani, se permettre de laisser la porte ouverte à toutes sortes de formes de shirk comme celle-là. Ensuite, le fait que les gens qui se permettent de rentrer avec des amulettes aux toilettes, c'est un manque de respect envers le Coran. Et ça, c'est une des conséquences logiques de justement laisser aux gens porter des amulettes. Et il y a des gens qui ne portent pas seulement une seule amulette. Il y en a qui en portent des 5, 6. Il y en a même qui portent plus que ça. Donc, Allah Musta'an, est-ce qu'à chaque fois qu'ils vont rentrer aux toilettes, ils vont les enlever pour aller aux toilettes? Il y en a beaucoup d'entre eux, ils ne vont jamais les enlever. Ils vont dire peut-être que si je vais les enlever pendant que je vais aux toilettes, je vais me faire frapper par un mauvais œil ou par un sort. Donc il a peur de les enlever. Pourquoi? Parce qu'il est accroché au shirk. Allah musta'an. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « إِذَا أُبِيحَ لَهُمْ تَعْلِيقَ الْقُرْآنِ كَانَ هَذَا سَبَبٌ فِي امْتِهَانِ القرآن لأنه سيعلق على الصغار الذين لا يتحيزون من النجاسة فيعلق على الحيض وعلى الذين يدخلون الحمامات وغير ذلك فيكون وسيلة لامتهان القرآن. Donc le cheikh il dit si on va permettre d'accrocher le Coran, eh bien ça va être une cause pour manquer de respect envers le Coran dans ces amulettes-là. Si on écrit le Coran dans ces amulettes, c'est une cause pour qu'on manque de respect, ou on va manquer de respect envers le Coran, surtout si on les accroche aussi à des enfants. Ça, c'est une autre chose qu'on n'avait pas mentionnée. Et parce que les enfants, ils ne font pas attention, ils ne font pas autant attention à se préserver contre les impuretés. Et de même que si, par exemple, une femme, elle a ses règles et qu'elle s'accroche des amulettes, c'est la même chose. Ou les gens qui rentrent aux toilettes, quand ils vont aux toilettes, on a dit tout à l'heure, ils vont porter ça sur eux. Donc, tout ça, c'est des exemples de manque de respect envers le Coran. Ensuite, le cheikh, il dit, « وقال المصنف رحمه الله والرقى التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقال الحافظ التولة بكسر المثنى ويعني فتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم. Donc ici le cheikh il donne quelques définitions comme l'auteur l'a mentionné. Il disait, il expliquait que ar-ruqa, c'est les incantations, et parmi ces incantations là il y en a qui ont été permises si elles ne sont pas faites avec du shirk. Donc si elles sont à la base les incantations, c'est-à-dire comme la ruqya, si on fait la ruqya à partir ruqa, c'est le pluriel de ruqya. Donc si on les fait à partir du Coran, à partir des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des formes de adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna authentique, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de shirk dedans, donc c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a permis pour les gens qui sont malades, et ainsi de suite. Il a mentionné ici Al-Ain wal-Huma, donc les gens qui sont affligés par un mauvais œil ou bien par une morsure de serpent ou de scorpion. Donc, les gens malades en général, c'est permis de leur faire la ruqya. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit خص الرقى التي تعلق. Donc il y a les incantations qu'on récite comme la ruqya, et il y a les incantations qui sont écrites et qu'on accroche sur soi, Et c'est celles-là, yani, qui sont interdites si elles sont, comme on a expliqué, comme les amulettes. Ça rentre là-dedans, qu'est-ce qui est interdit. Et le cheikh, il dit, فإن كانت من غير القرآن فلا فهذا لا خلاف في منعها وإن كانت من القرآن ففيها خلاف كما تقدم. Donc si elles sont à base de autre chose que le Coran, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de divergence que c'est interdit. Toutefois, si elles sont à partir de faites à partir de du Coran, il y a la divergence qu'on a mentionnée tout à l'heure et on a expliqué que la position correcte c'est que c'est interdit. Ensuite, il dit القراءة على المريض لا بأس به ولا خلاف فيه لأن الرقية تطلق ويراد بها تعليق الشيء من القرآن ويسمونها تميمة ويطلق ويراد به ما يقرأ على المريض مباشرة وهذا لا خلاف في جوازه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حسين بن عبد الرحمن السابق ذكره في باب من حقق التوحيد قال لا رقية إلا من عين أو حمى العين معروفة وهو الإصابة بالعين والحسد والحمى يعني هو اسم سم الأفاعي والعقارب. Donc ici le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on appelle يعني الرقى. Hein? Ce qui est permis de ça, c'est celle que on a mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire Ar-Ruqa, qui est mentionné le nom d'Allah, ou mentionné le Coran, les versets de Coran qu'on récite sur quelqu'un, ou les adhkar, les du'as qu'on récite sur quelqu'un quand il est malade. Toutefois, il dit, si on l'utilise pour désigner Ar-Ruqya dans le sens des amulettes qui sont écrites et qu'on accroche sur le corps, c'est ça qui est interdit. C'est ça qui est interdit. Mais si on veut dire par Ar-Ruqya les récitations qu'on fait sur la personne malade, ça, il n'y a pas de doute que c'est permis de réciter le Coran, de réciter des du'as pour quelqu'un directement. Hein, en récitant directement sur la personne, ça c'est permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. Hein, et on a mentionné déjà le hadith au début du livre, le hadith de Hussein ibn Abdurrahman à ce sujet-là, dans le chapitre Man haqqaqa at-tawhid, celui qui purifie son tawhid. Et on a mentionné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait là, ruqya. Illa min aynin aw humma, pardon. Il n'y a pas de ruqya acceptée pour un mauvais œil ou pour une morsure de serpent ou de scorpion. Et l'ayn, on a expliqué que c'était lorsque quelqu'un nous a frappé par un mauvais œil ou par de la jalousie. Et al-humma, on a dit que c'était la morsure du poison, d'une bête qui a du poison comme les serpents et les scorpions. التولة شيخ الدين نوع من السحر يسمونه الصرف العطف ويعملون شيئا يحبب المرأة إلى زوجها يعطفونها عليه أو العكس يحبب الزوج إلى زوجته ويعطفه عليها أو الصرف يعني يصرفه عنها ويبغضه لها ويبغضها له وهذا من فعل السحرة والعياذ بالله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذه التولة. Donc la tiwala, c'est la sorcellerie que les gens pratiquent dans le but de faire en sorte que un homme aime sa femme ou qu'une femme aime son mari. Donc c'est qu'est-ce qu'ils appellent al-atf, et l'autre forme c'est as-sarf, c'est le contraire, de faire qu'un homme déteste sa femme ou qu'une femme déteste son mari. Et ça, c'est les sorciers qui font ça. Et bien entendu, ça c'est haram, c'est du shirk. Et c'est du kufr, yani. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 102, dans Surat al-Baqarah, et ils apprennent de ces deux-là, ce qui divise entre l'homme et son épouse. Et ce qu'on appelle, on appelle ça At-Tiwala. Après, le cheikh, il explique et il dit donc que يعني فدل هذا على أن السحر شرك لأن فيه استعانة بالشياطين فالساحر يستعين بالشياطين يتعلم منهم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر من تعليم الشياطين ومن الاستعانة بالشياطين فالساحر مشرك وكافر بالله العظيم. Donc le cheikh il explique que ça c'est la preuve que la sorcellerie et la magie, ça c'est du shirk, c'est une forme de shirk, hein? Et il explique que pourquoi, parce que la personne qui fait du sihr, elle cherche l'aide des diables, et donc le sorcier il prend l'aide des diables et il apprend des diables les formes de sorcellerie qu'il fait, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Al-Baqarah le verset 102, et ils apprennent, hein, il dit ce sont les diables qui ont réuni la foi parce qu'ils apprennent aux gens la sorcellerie. Donc la sorcellerie, ça vient de l'enseignement des diables. Et il cherche l'aide des diables, et donc c'est pour cette raison-là que tout sorcier est un mouchrik. Tout sorcier est un kafir. Hein? Il n'y a pas un sorcier, quelqu'un ne peut pas être un sorcier puis ne pas être kafir. On ne peut pas être un sorcier et ne pas être mouchrik. Puisque pour faire du sihr, il faut faire du kufr. Pour faire du sihr, il faut faire du shirk. Sinon, tu ne peux pas l'apprendre. Et tu ne peux pas le faire. Il faut l'aide des shayatines. Et pour avoir l'aide des shayatines, les shayatines, ils demandent en retour un acte de sacrilège que tu dois faire qui comprend du shirk ou du kufr. Donc, les deux sont... Hein, yani, les deux sont reliés. Et aussi en même temps, c'est que même si quelqu'un il dit par exemple, ben moi c'est pas moi qui fais le sihr, je m'en vais voir un sorcier, il fait le sihr pour moi. Donc même si c'est pas toi qui l'as fait, du moment que tu demandes à les services d'un sorcier, eh bien c'est comme si tu es complice dans le sihr. Et donc ça, par conséquent, tu es kafir toi aussi, même si tu l'as pas fait toi-même. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, on continuera au prochain cours, incha'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته